Bonjour le Book Club. Donc j'ai lu Alien en cette rentrée et j'avoue que j'ai été complètement emportée et surtout très désorientée. Vu que c'est aussi sensuel et hyper organique, ça fait un combo très étrange et addictif aussi.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre à l'invitation d'Alexandre Alaïbegovitch qui anime la communauté du Book Club sur Instagram et vous a demandé à quoi ressemblait votre bibliothèque. J'avoue que c'est avec un immense plaisir que je me suis promenée dans la galerie de photos que vous lui avez envoyées, façon de vous rencontrer, en passant par vos livres, vos tentatives de rangement plutôt réussies, vos couvertures douillettes, vos chats, les disques et les plantes qui ornent certaines étagères. Bref, j'ai zoomé sur quelques titres, histoire d'aller au bout de ma curiosité et j'espère que vous ajouterez bientôt le roman de notre invitée du jour, Phoebe Hadjimarkos-Clark. Elle vient nous parler de Alien. Et puis continuez de nous envoyer vos biblis, ça nous réchauffe. Vers 15h50, comme chaque jeudi, on prend des nouvelles du livre En dehors de nos frontières. Aujourd'hui, on nous appelle du Chili pour évoquer l'écho contemporain que rencontre l'œuvre de Gabriela Mistral. Et puis nous finirons en chanson, comme chaque jour, grâce au grand jeu des pages musicales. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Phoebe Hadjimarkos-Clark.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, votre roman Alien, E, accent grave, N-E, paraît en cette rentrée littéraire de janvier 2024 aux éditions du Sous-sol. On va parler de ce texte dans un instant, mais ici on commence toujours par dresser comme ça une tentative de portrait de nos invités en tant qu'ils ont rencontré ou elles ont rencontré des livres, bref, en tant que ce sont d'abord des lecteurs et des lectrices. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, comment vous avez appris à lire ?
Je crois que j'ai probablement appris à lire à l'école, comme pas mal de monde. Je pense pas avoir été particulièrement précoce. En revanche, on m'a beaucoup lu avant que j'apprenne à lire, ce qui a fait naître en moi une sorte de fétichisme de la lecture et du livre, et qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui.
On vous lisait quoi ?
Toutes sortes de choses, pas mal de livres pour enfants, pas mal de contes, en français comme en anglais. Et puis ça s'est poursuivi peut-être jusqu'à mes 12 ans avec des romans jeunesse, pas mal.
Vous avez appris à lire en français et en anglais ?
J'ai appris à lire en français à l'école et j'ai appris à lire en anglais sur le tas en lisant.
Et aujourd'hui, votre vie de lectrice, elle est toujours partagée entre les deux langues ?
Ouais.
Ouais. Vous avez été ensuite, une fois que vous êtes devenue autonome dans la lecture, quelqu'un qui lisait beaucoup ?
Je pense que... Je crois que j'ai jamais cessé de lire dès que j'ai su le faire. Et comme je disais, je crois que j'ai vraiment un rapport fétichiste ou compulsif, en tout cas à la lecture et au livre. Et j'ai très tôt commencé à établir des catégories, des listes. Au tout début de l'adolescence, j'ai commencé à avoir un grand programme de lecture pour me mettre à niveau et mieux connaître la littérature française du 19e siècle. C'était mon objectif.
Donc vous aviez des listes avec des livres à lire.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et vous étiez plutôt fidèle à vos listes ?
Ben, je pense globalement. Après, je pense que j'ai fait des petits écarts du côté de Harry Potter ou de Tolkien, quoi. Mais ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous gardez cette forme de fétichisme au livre et comment ça se traduit dans votre vie plus adulte ?
Ça se traduit par un grand appétit de lecture et malheureusement une mémoire complètement défaillante. C'est-à-dire que généralement, malheureusement, j'oublie complètement ce que j'ai lu dès que j'ai refermé le livre et je suis obligée de relire.
Est-ce que c'est grave ? Est-ce que vous relisez avec plaisir ?
Oui, mais généralement, oui.
Alors, si on remonte un petit peu donc à l'orée de ces 12 ans-là, donc on arrête de vous lire des histoires, vous commencez à en lire beaucoup par vous-même. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu par quel chemin vous êtes passé et quelle forme a pris comme ça cette vie de lectrice ? C'est pas une question facile, mais si on fait comme ça une map, une carte ?
Je pense que c'est des jeux de correspondance, sans doute. Enfin, une lecture en appelant une autre, il y a souvent des références. Je lisais très assidûment les notes de bas de page, enfin, tout l'appareil critique. Et donc, enfin, ça me permettait ensuite de pouvoir rebondir et d'aller chercher d'autres livres qui pouvaient s'apparenter à celui que je venais de lire. Ou en tout cas, qui le complétaient. Enfin, voilà. Donc, je pense que la map prendrait probablement cette forme-là, ouais.
Vous parliez du roman du 19e. Est-ce que vous êtes restée dans ces eaux-là? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été... un peu en dehors, qui se sont ouvertes avec le temps vers d'autres contrées.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, non, c'était quand j'étais vraiment une adolescente psychorigide. Mais non, par la suite, je pense que j'ai pas mal fonctionné par... Bah, encore une fois, peut-être par obsession, à vouloir lire, je sais pas, tout Kafka ou tout Dostoïevski, enfin des choses comme ça.
Ce que vous avez fait ?
Probablement pas, non. Mais en tout cas, c'était mon objectif. Et ensuite, je me laissais emporter par une nouvelle lubie et je passais à autre chose, quoi. Mais non, progressivement, j'ai remonté le fil du temps et donc j'en suis au 21e siècle maintenant.
Si vous deviez décrire ce que vous cherchez aujourd'hui dans les livres, ce serait quoi ?
C'est une très bonne question, mais pas évidente. Je crois que je cherche juste des manières alternatives de dire le monde, ou de le voir ou de le ressentir. Enfin, je crois que c'est ça qui m'intéresse le plus. Et ça va de pair avec cette espèce d'appétit un peu gargantuesque, quoi, de vouloir engranger le maximum de connaissances et de sensations.
Est-ce qu'il y a une bonne cohabitation entre votre pratique d'écriture et votre pratique de lecture ?
Ouais, je crois. Enfin, l'une nourrit l'autre, je pense, inévitablement.
Et dans le temps, ça se partage comment ? Quand vous êtes en train d'écrire, vous lisez, vous continuez de lire, ça ne s'exclut pas ?
Oui, non, je m'arrête jamais de lire, par contre. Ça, c'est une constante. Même si je m'arrête malheureusement d'écrire de temps à autre.
Est-ce qu'il existe une photo de vous avec un livre à la main ?
Oui, il en existe pas mal. Comme je disais, dès ma toute petite enfance, j'étais vraiment obsédée par le livre lui-même, enfin l'objet livre. Donc même dès avant que je sache lire, il y a beaucoup d'images de moi, justement, un livre à la main, en train de crâner, j'imagine. Et après, bon, toute mon enfance est parsemée d'images de moi lisant, évidemment.
Que vous aimez bien ? C'est une image que vous aimez bien ?
Oui, bah, ça fait partie de la légende familiale, quoi, j'imagine.
Vous avez beaucoup répété ce mot fétichiste, parlant de l'objet. Je disais en introduction que sur le compte Instagram, on a partagé ces temps-ci des photos des bibliothèques des personnes qui nous écoutent, qui font partie de la communauté du Book Club. Elle ressemble à quoi, votre bibliothèque, à vous ?
En ce moment, elle est extrêmement désorganisée parce que je viens de déménager. Mais en principe, elle est rangée par catégorie et dans chaque catégorie, elle est rangée par ordre alphabétique.
Et c'est quoi les catégories de votre bibliothèque ?
J'ai la littérature francophone en français, la littérature anglophone en anglais, ensuite j'ai les traductions en anglais et en français, la poésie, les sciences humaines, et je crois que c'est tout. Et ensuite la pile de livres que je dois lire.
Quel est l'endroit le plus fourni, le plus peuplé ?
Probablement la littérature francophone en français. Ouais.
On est encore au tout début de l'année, Phoebe et Jay Marcos Clark, donc on fait comme ça des piles de livres ou peut-être les fameuses listes de votre adolescence. Est-ce que vous avez rendez-vous cette année avec un livre en particulier ou à plus long terme, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous ferait signe assurément ?
Dans l'absolu, je ne crois pas. En revanche, cette année, j'ai rendez-vous avec un livre que je vais pas tarder à commencer, qui pour le coup est plutôt un livre de sciences humaines, disons. C'est un livre d'un chercheur américain qui s'appelle Steven Pine. Et le livre s'intitule Le Pyrocène. Et donc, c'est une étude de l'histoire humaine à l'aune du feu. La manière dont le feu façonne les civilisations et façonne aussi notre avenir et nos potentiels à venir aujourd'hui. À une époque où enfin, le feu est partout, quoi. Et ça, je dois le lire pour un projet d'écriture que je vais commencer sous peu, j'espère.
Vous lisez beaucoup de sciences humaines, beaucoup de livres qui relèvent plus de la documentation ?
Un petit peu. Pas plus, certainement pas plus, mais pas plus que le roman, mais oui, c'est assez présent. Mais j'ai plus de mal à être assidue et terminer les livres. En tout cas, rapidement, ça me prend parfois plusieurs mois.
Est-ce que vous avez une table de chevet, dernière question ?
Ouais.
Est-ce qu'il y a des livres dessus ?
Il y a ce livre-là, justement, donc le Pyrocène. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai recommencé à lire Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet, tout récemment. J'ai eu une grosse phase Jean Genet, il y a une grosse dizaine d'années, où j'ai essayé de tout lire. Et depuis, j'avais plus touché, donc je redécouvre ça avec beaucoup de plaisir. Je lis un bouquin de Carlo Ginzburg aussi, Le fromage et les vers.
Tout en même temps ?
Oui, mais de façon plus ou moins ordonnée. Enfin, généralement, je lis le roman, et je lis un roman central et je parsème après d'autres choses.
On va aller vers votre livre, à vous, Alien Phoebe Adji Marcos Clark, juste après cette chanson de La Femme. On y danse sous acide, non loin d'un animal et non loin non plus des yeux du sphinx. Donc c'est pas mal.
C'est parfait.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Figurez-vous une maison à la campagne, jusqu'ici tout va bien, un salon, et au milieu du salon, et c'est là que ça se corse peut-être, une chienne empaillée. Imaginez maintenant une jeune femme nommée Fauvel qui fume pas mal de drogue et est élue pour garder une autre chienne vivante celle-ci et clone de la première. La menace tout autour de la maison ne cesse de grandir pendant ses jours de garde, augmentant comme en miroir le sentiment de la menace intérieure. Et c'est là l'une des grandes questions de votre roman, Phoebe Adji Marcos Clark, à savoir le lieu de la peur. D'où vient-elle? Où se loge-t-elle? À l'intérieur ou à l'extérieur? Est-elle légitime? Les mêmes questions se posant à propos de la violence dans ce même texte, car nous rencontrons Fauvel, blessé, un tir de LBD lui ayant fait perdre un œil. Alien est le titre de votre dernier roman, il a paru aux éditions du Sous-Sol, on continue d'en parler, ou on commence d'en parler avec vous, Phoebe Adji Marcos Clark. Dès le titre, on sent que les mots sont importants et que la manière dont ils s'écrivent sont importants, peut-être on reviendra sur ce Alien E, accent grave NE, qui nous invite dès le départ, à la fois dans un imaginaire, mais aussi dans une féminisation du langage ou des mots. Peut-être on va s'attarder sur le prénom ou sur le nom de Fauvel. Qu'est-ce que ça nous raconte d'emblée et comment il est arrivé jusqu'à vous ce nom-là?
Je crois qu'il y a plusieurs niveaux de lecture pour ce prénom. Le premier qui est un petit peu évident, c'est le lien avec le fauve, avec l'animal sauvage, qui est un lien qui traverse tout le livre. Bien qu'on n'en ait pas encore parlé, mais enfin, j'imagine qu'on va développer ça un petit peu par la suite. Mais c'est aussi un clin d'œil ou une référence au roman de Fauvel de Gervier Dubus, qui est un texte du XIVe siècle, si je ne me trompe pas, dans lequel apparaît un âne, Fauvel, qui réussit à prendre la place de son maître dans sa maison et à se faire couronner roi. Et donc cet âne, Fauvel, qui est plutôt un sale type, son nom, c'est un acrostiche qui signifie flatterie, avarice, vilenie, le U étant s'écrivant V, variété, donc c'est-à-dire inconstance, envie et lâcheté. Et donc c'est un petit peu les péchés capitaux des puissants de l'époque, car le roman de Fauvel, c'est en fait une satire politique. Et donc ça m'amusait de reprendre ce nom-là que j'ai croisé justement en faisant des recherches plutôt théoriques sur à la fois sur la chasse et aussi sur les traditions carnavalesques au Moyen-Âge. Et je trouvais que ça sonnait plutôt bien. Et puis petit à petit, je l'ai choisi pour le personnage sans vraiment choisir, en me disant que c'était provisoire. Et petit à petit, il s'est imposé. Et je trouve que c'est un nom parfait, finalement.
Peut-être que ça nous invite directement, Phoebe Hadjimarcos-Clark, à parler de la manière dont vous avez créé cet univers-là ou comment vous êtes entrée en écriture. On entend bien la façon dont tout de suite, avec juste une simple question sur un nom de personnage, il y a tout un pan d'imaginaire et tout un pan aussi théorique qui s'ouvre. Et ça va être le cas pour, finalement, beaucoup des ingrédients de ce texte-là. Alors, quand on traverse le texte, on n'est pas obligé d'ouvrir toutes les portes. Et par exemple, voilà, moi, si je vous avais pas posé la question, je me serais pas douté de la profondeur de champ de ce nom-là. Cependant, on le sent. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous travaillez, comment ça se met en place toutes ces choses?
C'est une question compliquée pour moi parce que je travaille de façon très peu réfléchie c'est plutôt dans des états seconds, non pas que je fume plein de pétards comme Fauvel, hein, mais c'est plus que quand je rentre dans une phase d'écriture, je suis très peu consciente de ce que je fais et très peu consciente de ce qui m'entoure. Donc j'aurais du mal à vraiment parler des étapes de l'écriture ou de la fabrique de l'écriture. Malheureusement, j'ai peu de prise là-dessus.
Mais peut-être comment vous le regardez après? C'est-à-dire peut-être que vous voyez que les choses, elles se sont agencées d'une façon, et que ça peut être intéressant.
Ouais. Et c'est même plutôt magique, quoi. Enfin, c'est comme une sorte de découverte a posteriori. Ah, j'ai réussi à tisser ensemble tous les fils. Mais en revanche, enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a un travail préparatoire qui passe beaucoup par la lecture et, comme on le disait un petit peu plus tôt, par la lecture de textes théoriques. Que je vais pas forcément utiliser tel quel, je picore ici ou là des petits éléments qu'ensuite je...
Donc pour Alien, vous vous êtes mis quoi à fureter du côté de l'animalité, l'animal sauvage, la chasse? Quelles étaient vos pistes de départ?
Ouais, d'abord j'ai lu pas mal de choses sur les violences policières. Ça a occupé quelques mois. Et ensuite, oui, je suis allée du côté de la chasse, puis des traditions de chasse médiévale et de chasse sauvage, qui sont une légende médiévale sur des chasseurs fantomatiques qui traversent les ciels d'hiver, la nuit. Et après j'ai commencé à lire des choses un petit peu sur les extraterrestres aussi, mais un peu moins. C'est une sorte d'amalgame de tout ça.
Peut-être on peut dire que, voilà, j'ai parlé de la question de la peur et de la violence dans ce texte, qui sont deux choses très présentes. L'autre, ce serait qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire? Quelle est la contagion des histoires qu'on se raconte? Que ce soit une contagion, on va dire, intérieure, comment on peut être soi-même pris pour le meilleur ou pour le pire dans ses propres histoires, et comment autour de nous, dans la société, les rumeurs, les mythes, les légendes, comme ça, structurent aussi les possibilités d'être ensemble. Donc on entend dans ce que vous racontez que, en fait, un peu les sous-sols aussi de vos lectures. Mais revenons à Fauvel. Quand on la rencontre, on peut dire que, bon, voilà, elle va s'apprêter à faire un truc un peu banal. A priori, c'est du dog-sitting, quoi. Elle va garder un chien. Elle va plutôt garder une chienne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage-là? C'est-à-dire, vous avez dit, je plane pas comme Fauvel. Vous diriez quoi? Qu'elle plane?
Je pense qu'elle plane pas mal. Mais c'est aussi parce qu'elle est très malheureuse et, comme vous l'avez laissé entendre, elle est terrifiée. Enfin, c'est quelqu'un qui vit dans la peur.
suite justement à la perte de son œil lors d'une manifestation. Et donc cette peur là qui est un peu tentaculaire et qui s'immisce un petit peu partout dans son expérience du monde va provoquer une sorte de pulsation de la conscience, quoi, où à la fois elle se referme, elle s'ouvre au monde et elle se referme, et finalement c'est un peu ces pulsations là qu'on suit dans le roman, quoi. Et oui, enfin, je pense que c'est un personnage qui est un petit peu ambigu, un petit peu ambivalent. Elle est à la fois détestable par moments et en même temps assez touchante, je crois. Enfin, j'espère. Et voilà.
Tout à l'heure, vous aviez dit que vous cherchiez dans la littérature des visions alternatives du monde. Et là, avec cette pulsion, il y a aussi l'idée d'une alternative. C'est vraiment quelque chose qui, en effet, s'ouvre, se referme. Est-ce que vous diriez qu'on peut faire confiance à Fauvel pour ce qui est du réel, pour ce qui est de la réalité, puisque c'est elle qui nous guide? Ce serait quoi le régime, votre régime d'écriture dans ce qu'on peut appeler, je sais pas, les choses tangibles, quoi?
Ouais. Alors je pense que c'est une narratrice qui est justement absolument pas fiable et je crois pas qu'il faille lui faire confiance à aucun moment parce que justement on la suit au fil de cette espèce d'enquête qu'elle mène dans cette campagne.
Parce que peut-être on peut dire pourquoi est-ce qu'elle mène l'enquête. Ouais.
Donc parce que autour de cette maison isolée à la campagne régulièrement on découvre du bétail tué en plein champ et parfois mutilé. Et les bonnes gens qui vivent autour de la maison, autour du village où se retrouve Fauvel, soupçonnent la chienne Anna, donc la chienne que Fauvel garde, d'être la responsable de ces tueries. Et Fauvel va devenir plus ou moins persuadée que c'est pas elle, que c'est pas la chienne, et donc elle va chercher le coupable. Sans jamais être certaine que c'est pas vraiment la chienne. Enfin, on vogue vraiment on navigue à vue dans un univers très embrumé et
très incertain. On n'est jamais complètement sûr de personne dans cette affaire.
Ah ouais. Ouais.
Moi, je suis plutôt du côté de la chienne, mais bon, je suis assez convaincue que c'est pas elle non plus. Et c'est un personnage très important. Je disais au départ que c'est d'emblée un personnage double, ce personnage de Anna, qui porte un prénom d'humain quand même, au passage, puisque dans ce salon, dans cette maison, il y a une version empaillée, qui serait la première version de la chienne, très docile, très gentille, assez idéale. Et la deuxième version, dont le personnage Fauvel à la garde, est un peu plus ambiguë, un peu plus dangereuse, et elle est clonée. On va s'attarder vraiment sur cette relation entre les deux en écoutant une archive de l'autrice, poétesse et traductrice Virginie Poitrasson.
Je me suis aperçue que c'était un passeur, en fait, le chien. C'était un passeur entre les deux mondes, entre le monde des vivants et le monde des morts, pour plein de raisons, et qui, en fait, était symboliquement, faisait le lien. Et puis, le chien aussi, cette caractéristique qui, moi, m'a toujours étonnée et m'a toujours, en même temps, justement, terrorisée, c'est qu'il sent quand vous avez peur. Le chien sait quand vous avez peur. Et moi, je me disais, mais comment il peut savoir ce genre de choses? Et c'était cette idée-là qu'en fait, c'était plutôt d'instaurer un dialogue avec lui plutôt que de partir en courant et de le fuir. Je me suis dit, comment me confronter à cette idée que il sait que j'ai peur, il sait que j'ai peur de lui, et qu'est-ce que j'en fais? Donc, il passe à travers les textes, c'est vrai qu'il se promène, mais au fur et à mesure, il devient plus un ami qu'un ennemi.
Les chiens, c'est que Fauvel n'en a jamais raffolé. Ils ne lui déplaisent pas, c'est juste qu'elle ne ressent pas l'affection débordante que certains leur témoignent, ni même de connivence, pas spécialement en tout cas. Les raisons à cela n'ont rien d'exceptionnel. Elle trouve les chiens empressés, trop serviles, et puis ils donnent l'impression de manquer de finesse ou d'élégance, avec leurs grosses pattes poilues et l'odeur que l'on sait. Ok, Fauvel n'a jamais adoré les chiens. Mais c'est peut-être parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de rencontrer un pour de vrai. Pourtant, ça y est, la voilà, enfin, face à une chienne, avec laquelle, en plus, elle devra cohabiter. « Votre réputation vous précède, ma chère », lui dit-elle muettement en tendant la main vers elle. Anna, la chienne, la regarde droit dans les yeux, mais ne lui donne pas la patte. Fauvel observe Anna avec admiration. Elle est élancée et finement musculeuse sous son poil ras. Elle a de beaux yeux, mais Fauvel doute de pouvoir s'en faire aimer.
Un extrait de votre texte Alien, juste après une archive de Virginie Poitrasson qui parle de la figure du chien traversant ses propres textes comme étant une figure du passeur. Et dans l'extrait que vient de lire Léa Weiss-Grus, bah c'est le début. Donc c'est vraiment aussi par la figure du chien et de la chienne qu'on entre et qu'on est accueilli comme dans les enfers. Qu'est-ce qui vous intéresse, Phoebe Hadjimarcos-Clark, dans cette figure du chien?
Je crois que ce que dit Virginie Poitrasson, que je ne connais pas encore, dans l'extrait est hyper intéressant. Cette idée que c'est un passeur, peut-être entre le monde des vivants et celui des morts, mais aussi entre le monde des animaux et celui des humains, c'est probablement l'animal le plus humanisé. D'ailleurs, ne dit-on pas que c'est le meilleur ami de l'homme. Enfin, bon, y a vraiment quelque chose qui... De profondément humain chez le chien et qui en même temps reste totalement étranger. Les chiens que j'ai eu l'occasion de fréquenter m'ont toujours confirmé cette intuition-là, c'est que on a beau chercher l'expressivité, on a beau chercher la compréhension chez le chien et dans son visage qui est lui-même très expressif, il nous reste totalement étranger. Enfin, c'est un être avec lequel on peut fondamentalement pas communiquer, mais avec lequel on tente désespérément de communiquer depuis sans doute des millénaires. Et ça me paraît incroyable, en fait, enfin, qu'on cohabite à ce point-là avec des créatures qui nous sont aussi radicalement étrangères. Et donc, ce point de départ-là me paraissait vraiment... parfait pour ensuite un peu dévider le fil de ce rapport entre l'humain et l'animal et ça me paraissait une bonne manière aussi de commencer à brouiller les frontières entre les deux.
Oui, dans ce premier paragraphe, on termine aussi sur la question du doute de pouvoir s'en faire aimer. Et Fauvel, c'est une question qui va se poser tout au long du roman, dans les humains avec qui elle va comme ça interagir, que ce soit du côté de l'amitié, du désir, de l'amour. Bon, c'est pas très évident. Et on peut dire que la relation avec Anna, avec la chienne, c'est la relation la plus... aboutie, peut-être la plus égalitaire aussi, la plus horizontale. Est-ce que c'est quelque chose qui est manifeste, au sens, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez dire, ou est-ce que ça s'est imposé comme ça dans l'écriture romanesque?
Non, c'était absolument pas quelque chose que j'avais à cœur de dire.
De défendre.
Non. Mais cela dit, c'est vrai. C'est très compliqué pour ce personnage, pour Fauvel, d'établir des liens avec ses co-humains. Et c'est plus simple dès lors qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de communication verbale, justement. Il n'y a pas de faux-semblants sociaux. Et elle est plus à l'aise dans cette manière-là de communier avec autrui. Cela dit, au fil du récit, elle tisse des liens d'amitié, elle ressent du désir.
Elle retrouve des liens d'amitié,
ouais,
aussi.
Ouais, et elle retrouve des liens d'amitié. Et donc, il y a quand même cette idée-là qui me paraît assez réjouissante aussi, et qui me paraît être un petit phare dans la nuit de ce roman qui est très sombre. Enfin, c'est quand même celui de l'amitié, de l'alliance, enfin, du fait que c'est à travers ces liens d'affection et d'amour que ce personnage de Fauvel qui est complètement brisé par la vie va renaître.
Puisque vous parlez de communicabilité ou d'incommunicabilité, est-ce que vous pouvez nous parler de la place que vous avez fait au dialogue, aux mots qui s'échangent ou aux mots qui se disent dans la tête du personnage?
J'imagine que vous voulez parler de la mise en page. Donc il y a pas de, dans les dialogues dans ce livre, il y a pas d'incise, il y a pas de guillemets, c'est juste des italiques donc tous les dialogues sont en italique et un petit peu à la suite les uns des autres, et donc j'espère que c'est quand même relativement clair, qu'on arrive à comprendre plus ou moins qui parle quand ou comment.
On y arrive.
Mais en même temps, j'avais un peu en tête l'idée de... Enfin, je sais pas, de quand même instiller une sorte de confusion dans l'identité des locuteurs. interlocutrices. On se doute de qui parle, mais on peut jamais avoir de certitude et on peut jamais trop savoir quand une prise de parole se termine et quand l'autre commence. Et ça, c'était voilà quelque chose qui reflète, je crois aussi, une idée qui est au cœur du roman, qui est celle certes de l'incommunicabilité, mais aussi de ce que je disais un petit peu tout à l'heure, de la communion, de la confusion, de l'absence de la labilité des limites entre les êtres.
Oui, d'ailleurs, s'il y a une confusion, ça peut être aussi celle de l'intérieur et de l'extérieur, comme il sera tout à l'heure question pour la peur, c'est que le fait que ces dialogues-là soient tellement intégrés au corps du texte, ça fait que parfois on se demande s'ils sont dits, ces mots-là, ou est-ce qu'ils sont seulement pensés, et que, comme on a beaucoup parlé aussi du régime un peu étrange que Fauvel entretient avec la réalité, qu'il y a vraiment aussi la question du rêve, du trip, qui soit bon ou qui soit bad, eh bien, ça peut être aussi des choses qui se passent à l'intérieur d'elle. Il y a aussi beaucoup cette question de l'intériorité. C'est quelque chose qui est arrivé tout de suite, le fait d'intégrer comme ça les dialogues au corps du texte.
Ouais, c'était même une des premières choses que j'ai mises en place, mais ça avait pas tout à fait la même forme que celle qui existe dans le roman. On a ensuite un petit peu cherché avec le designer graphique qui s'est occupé de la mise en page du bouquin pour trouver la formule qui fonctionnait vraiment, dans une version livre imprimée, quoi. Je crois que au départ j'avais pensé à faire quelque chose d'encore moins séparé de justement du corps du texte, enfin du reste du texte, donc pour encore accroître cette confusion, mais je crois que peut-être que je suis allée trop loin.
Vous avez été rattrapée.
Ouais.
In extremis. On va écouter la voix d'une romancière qui s'appelle Sophie Divry dans une archive de 2020. Vous disiez tout à l'heure, Phoebe Adjimarcos-Clark, que vous étiez d'abord concentrée dans vos lectures théoriques sur les violences policières. Elle parle du temps qu'elle a pris dans son temps d'écriture pour s'arrêter et produire un texte très très directement lié au Gilet jaune.
Ils ont tous manifesté ensemble. D'ailleurs, Frédéric et Ayane ont perdu la main le même jour, un à Tours, un à Bordeaux. Et ce qui se passe avec cet accident, c'est qu'à ce moment-là, toute leur vie bascule et ils sont démembrés, au sens propre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était beau dans le mouvement des Gilets jaunes, il y en a un qui m'a expliqué ça avec... qui était extraordinaire pour moi, qui ai fait des sciences politiques, c'était vraiment l'idéal de la convergence des luttes. Au début, j'y croyais pas, et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était moi aussi, donc j'y suis allée, et puis après même, je me suis politisée. Et après cet accident, en fait, il n'y a plus que des opérations, des rééducations, des problèmes de papier, des problèmes de... on ne sait plus conduire, on n'a plus de travail, on a encore le crédit à payer, mais on n'a plus de salaire. Ils sont renvoyés chez eux. Et l'État, la police, la justice veut qu'ils restent tout seuls chez eux, traumatisés. Or, moi, j'essaye littérairement de les rassembler en un cri. Et c'est en effet pas que leur histoire, c'est notre histoire, ça je crois beaucoup en cela. C'est notre histoire, c'est aussi d'ailleurs pas que l'histoire des victimes. Certains sont devenus des héros, mais d'autres ne s'en sortent pas bien du tout. Ils sont pas obligés de devenir des héros parce qu'ils ont été des victimes. Mais c'est notre histoire dans le sens où moi je me suis bien rendu compte, parce que si j'avais du mal même à arrêter mes petites histoires, mes fictions, pour prendre 6 mois pour écrire ça, c'est parce que ça m'obligeait à regarder vraiment ce qui nous arrivait. Et ce qui nous arrive, j'ai terriblement honte en fait de ce que notre pays a fait à ses enfants.
La romancière Sophie Divry en octobre 2020 au micro de Kathleen Evin sur France Inter. Phoebe Adjimarcos-Clark, quand on rencontre Fauvel, ce personnage qu'on va suivre tout du long de votre roman, on la rencontre tout de suite estropiée. Elle a tout de suite un œil en moins. Quelle place ça tient? Qu'est-ce que ça ouvre comme réflexion littéraire sur la violence, légitime ou pas? Qu'est-ce que vous faites comme cas de cette blessure?
Pardon, j'essaie de, de répondre dans l'ordre. Quelle place ça a? Bah une place tout à fait centrale dans la mesure où c'est l'origine de sa peur, ou en tout cas c'est l'origine la plus proche et la plus immédiate de sa peur. C'est comme l'a très bien dit Sophie Divry, en fait je pense que ce genre de blessure et ce genre de traumatisme plonge dans une grande solitude les personnes qui en sont victimes. Et c'est absolument le cas de Fauvel qui est à la fois paralysé par sa terreur de l'autorité, de l'extérieur, mais aussi tout simplement par le handicap physique en fait dont elle est à présent porteuse. et qui se fait très isolée. Et c'est aussi ça, finalement, qui va donner lieu à cette fragmentation sensorielle qu'on a évoquée un peu plus tôt, quoi. Enfin, c'est aussi parce que ces perceptions sont en quelque sorte remises à zéro du fait de la perte assez importante de vision qu'elle a subie. C'est parce que ses perceptions sont reconfigurées, disons, qu'elle va pouvoir s'enfoncer dans ce nouveau monde très très sensuel, un peu gluant, et qui est celui de ses tripes, qu'il soit bon ou mauvais.
Sans le romantiser, vous en faites une nouvelle position, comme vous dites, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des visions qui sont estropiées ou gênées, ce sont aussi des nouvelles visions. Tout à l'heure, on a commencé en évoquant beaucoup le tissu des légendes, des mythes, des vieilles histoires, que ce soit celles qui se racontent autour de la maison dans la campagne ou celles que vous avez pu lire et des récits et des fictions du XIVe siècle, Phoebe Hadji Marcos Clark. Une personne, qu'elle soit humaine ou animale, avec un œil en moins, c'est une figuration mythique, c'est une figuration qui traverse toute la littérature et qui souvent octroie aux êtres de nouvelles capacités. Quelles seraient les nouvelles capacités de Fauvel? Qu'est-ce qu'elle voit qu'elle ne verrait pas si elle avait ses deux yeux? Encore une fois, je répète, c'est pas une romantisation de la violence policière, mais c'est une façon de décrire son nouvel état. Ça lui ouvre quoi, ou ça nous ouvre quoi à nous, lectrices et lecteurs, comme traversée?
Je vais juste revenir sur ce que vous disiez. Effectivement, c'est absolument pas une romantisation. Enfin, je veux dire, elle est absolument détruite par cet incident. Et en aucun cas, c'est vu comme, je sais pas, un élément du récit qui finalement a des répercussions positives, quoi. Et j'ai évidemment oublié la suite de votre question. Je suis désolée.
Alors, une fois ceci dit, qu'est-ce que ça ouvre néanmoins, oui, ou qu'est-ce que nous ça nous permet, ou qu'est-ce que vous ça vous permet d'écrire?
Vous parliez justement de cette figure un peu mythologique de la personne avec un œil en moins, c'est effectivement ça évoque toutes sortes de choses. Et oui, je pense qu'elle, comme je le disais un petit peu plus tôt, elle découvre un nouveau monde sensoriel parce qu'elle ne peut plus dépendre totalement de sa vision. Donc ça passe beaucoup par l'odorat, ça passe beaucoup par des sortes de perceptions presque extrasensorielles finalement. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Enfin, on ne sait pas à quel point elle est fiable, on ne sait pas à quel point ce qu'elle perçoit est réel ou non. Et tout ça, effectivement, d'un point de vue fictif ou fictionnel, quoi, ça découle justement de la perte de son œil. Donc, dans ce sens-là, oui, effectivement, c'est presque un petit ressort narratif qui fait que qu'elle est dotée de pouvoirs magiques, quoi. Mais bon, plus profondément, je crois que c'est cette crainte et cette tristesse, quoi, qui l'habite, qui l'ouvre son champ perceptif.
C'est la peur, en effet, qui est au cœur du roman, qui est une des grandes questions du roman. On en écoute un nouvel extrait.
Savez-vous comment la peur peut briser jusqu'au plus petit fragment d'un être? Le moindre son menace. La moindre présence peut prendre la forme d'une attaque. Tout vise à nous réduire à néant. On ne peut plus sortir. Chaque mètre parcouru est propice à sursaut, à cœur qui défaille, à cœur meurtri. On ne peut plus aimer, on ne peut plus penser. Les tremblements s'invitent n'importe quand, n'importe où. Surtout quand la peur semble avoir été conjurée, semble s'être évanouie dans les ombres, plus loin, loin. On a franchi la distance au-delà de laquelle on est redevenu une forteresse imprenable. Et puis la peur revient. Elle s'installe dans tout le corps comme si elle ne l'avait jamais quitté. Elle se fond dans les muscles en liquéfaction. Elle possède. Elle devient nous. Il n'existe aucun prêtre pour l'exorciser. Il faut changer de trottoir, changer de rue, changer de ville, changer. Se renouveler sans cesse pour qu'elle ne nous reconnaisse pas. Mais elle nous retrouve toujours. Ô vous, les très hauts pour qui il est inconcevable de mesurer ce qu'est une vie de crainte, une vie où la peur, tandis qu'elle nous dévore les entrailles, ne doit jamais être dite ni montrée, mais bat dans les veines en tachycardie. Glace enfin, tous les jours que dure une vie. Considérez un instant ces existences-là. Toutes ces autres existences marquées par l'inquiétude. Elle finit par rugir par nos bouches, nous étouffer à jamais. Et c'est fini.
Un extrait d'Alien, Phoebe Adji Marcos Clark, qui paraît en cette rentrée littéraire de janvier aux éditions du Sous-Sol, si bien lu par Léa Weiss-Gruss. Vous disiez tout à l'heure, en fait, j'écris et puis ce qui s'agence, ce qui naît comme ça sous ma plume, j'ai du mal à l'intellectualiser. Néanmoins, est-ce qu'il y avait dans une des lignes de force dans le projet, l'idée de réfléchir à ça, à ce que c'est que une ou des existences mues par l'inquiétude? Ça revient tant.
Bien sûr. Oui, c'est même le point de départ de ce récit, de ce roman. C'est l'expérience que j'ai pu faire de la peur et de l'inquiétude, et qui à un moment donné dans ma vie a pris énormément de place, et peut-être un peu comme Fauvel qui ne se contente pas, qui ne reste pas seul avec son œil en moins, mais qui va cas un cas vers le monde. J'ai choisi aussi d'en faire quelque chose, d'écrire sur cette angoisse. Et finalement, ça a pris une forme tout autre.
On peut dire que ça prend aussi beaucoup de forme dans le roman, c'est-à-dire que à la fois, bon, il y a cette fameuse menace sourde, ces bêtes qui sont tuées, qui sont maltraitées, il y a aussi la violence policière qui crée de la peur, qui inscrit la peur, il y a la peur d'aller vers les autres, et puis il y a quelque chose comme ça qui est sourd, qui est un peu indistinct, qu'on n'arrive pas à dire, et qui quand même pourrait être dit de manière trop, je sais pas comment dire, trop courte et trop simpliste sous une grande formule qui serait le patriarcat, c'est-à-dire vraiment la domination ou la domination masculine. Ça prend, c'est comme si de cette formule-là, politique ou théorique, vous faisiez quelque chose de très sensible, de très sensitif. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage?
Ouais, enfin, je pense que vous l'avez parfaitement résumé.
Approfondir un peu plus.
Ouais. Non, mais c'était effectivement à partir de ce constat politique là que certaines vies sont façonnées par la domination et par la peur qui en découle, que ce soit les violences patriarcales, les violences policières qui peut-être éventuellement sont une seule et même chose, et donc partir de ce constat théorique plutôt froid et plutôt abstrait d'une certaine manière, et oui, de s'enfoncer dedans avec tout son corps.
Oui, c'était vraiment aller voir, une fois qu'on a dit ça, et c'est beaucoup dit en ce moment, on va dire, il y a une sorte de production d'un discours social qui essaye de l'expliquer. Une fois que c'est expliqué, c'est comme si le roman avait la possibilité de se demander, mais donc ça fait quoi dans les veines, ça fait quoi le soir, ça fait quoi le matin, ça fait quoi dans un corps d'enfant, ça fait quoi dans un corps d'adulte qui se souvient de son corps d'enfant, etc., etc. C'est comme si vous rentriez au plus profond, mais par la littérature, dans les effets du patriarcat.
Ouais, bah c'est absolument parfait, parce que c'est ce que j'avais très envie de faire. Mais je crois aussi que faut pas perdre de vue, et vous l'avez laissé entendre vous-même, quoi. Enfin, que c'est pas un roman à thèse, quoi. C'est pas, je cherche pas à démontrer que le patriarcat est violent. Enfin, je cherche pas à prouver quoi que ce soit. En revanche, oui, je cherche à éprouver jusqu'au bout ce que ça peut signifier pour les êtres qui vivent sous ce régime-là.
Humain et non humain.
Absolument.
On va écouter la voix de Morgane. Elle fait partie de ce grand book club de France Culture. Elle a lu votre livre et elle vous en propose à la fois un témoignage de lecture et elle vous adresse deux questions.
Donc bonjour le Book Club et bonjour Phoebe Adji Marcos Clark. Donc j'ai lu Alien en cette rentrée et j'avoue que j'ai été complètement emportée et surtout très désorientée. C'est un roman qui est très sombre et c'est malaisant aussi parfois parce que ça parle de peur et de violence. Et d'un coup tout ça bascule dans le surnaturel et dans l'horreur.
vu que c'est aussi sensuel et hyper organique, ça fait un combo très étrange et addictif aussi. C'est hyper cinématographique, ça pourrait faire une pièce de théâtre incroyable. Et je pense que c'est la manière particulière de mettre en scène les dialogues qui me fait dire ça. Est-ce que, Phoebe, tu as écrit en pensant à des films particuliers ou est-ce que tu as écrit en imaginant que ça pouvait être performé peut-être ? Ça fait deux questions en une, désolée.
Merci beaucoup Morgane, et bien je vous adresse les questions.
Merci Morgane pour ce témoignage, ça me touche beaucoup.
Donc à la fois des références cinématographiques, éventuellement l'idée d'en faire quelque chose de plus performatif, de plus théâtral.
Bah, j'ai pas de référence cinématographique particulière, si ce n'est que peut-être un peu comme les livres, je regarde beaucoup de films que j'oublie immédiatement, mais qui restent.
Ça me fait plaisir qu'il y ait deux, trois personnes qui parlent quand même de cette expérience-là, ça m'arrive de temps en temps. Pardon.
Donc je pense que bon, ça travaille et ça reste là, mais je, malheureusement, j'ai pas de référence à donner. Et pour ce qui est de la performance, le théâtre, j'y avais absolument jamais pensé. Mais en effet, je crois que ça pourrait être intéressant. Et on m'a déjà dit que ça ferait sans doute un super film. Et je suis d'accord. Enfin, en tout cas, au moment de l'écriture, c'est vrai que j'avais clairement le film qui s'était roulé devant moi. Et une fois de plus, je pense que c'est de voir quelque chose de presque extérieur qui m'a permis aussi de le retranscrire de cette façon-là.
Alors, ça nous fait quand même arriver à ce titre-là. On avait promis au début de l'entretien qu'on en dirait un mot, Alien. Évidemment, c'est aussi, ça peut faire signe vers un univers cinématographique. D'où il vient ce mot-là et qu'est-ce qu'il nous raconte éventuellement ou qu'est-ce qu'il nous annonce du livre à venir ?
C'est amusant parce que j'ai revu le film Alien de Ridley Scott très récemment, que j'avais vu il y a fort longtemps, mais que j'avais donc oublié. Il y a quelques correspondances ici ou là, je trouve que ça colle un peu au sens littéral du terme. Et mince, j'ai encore oublié, je suis désolée.
Pas de problème, je peux répéter, moi je m'en souviens. Ouais. Qu'est-ce que ça nous annonce ce mot-là, Alien, oui, du livre qu'on va ensuite parcourir?
Je pense que c'est peut-être comme le fond du livre lui-même, c'est quelque chose d'un peu trouble, d'un peu polysémique. C'est quelque chose qui existe et n'existe pas à la fois. Enfin, ça peut être un verbe conjugué. Ça peut être le féminin d'un alien, un féminin un peu francisé. Ça pourrait presque être un prénom. On sait pas trop à quoi ça fait référence. Et ça pourrait aussi surtout être un adjectif, et c'est d'ailleurs la place qu'il prend dans le livre. C'est à un moment un épithète qui est accolé à Fauvel, qui se sent alien. Et je pense que c'est, oui, se sentir autre, se sentir hors de soi, se sentir loin des autres peut-être aussi. Voilà.
Et pourquoi pas se sentir aliéné ? Il y a quelque chose quand même du parcours, de la traversée pour cette Fauvel qu'on rencontre au départ dans un état et on peut dire qu'on la quitte pas tout à fait dans le même état. Est-ce qu'il y a un processus de libération pour ce personnage-là, Phoebe Hadjimarcos-Clark ?
Oui, je crois que le livre est un livre de libération. Je crois qu'à travers, l'amitié, les liens qu'elle tisse avec les autres personnages, avec aussi l'environnement dans lequel elle évolue, elle se répare oui, précisément de son aliénation, mais qui est une aliénation qui finalement touche presque tous les personnages d'une façon ou d'une autre.
Vous restez avec nous encore un peu ?
Mm-hmm.
On va au Chili.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Parce que comme chaque jeudi dans le Book Club, nous prenons des nouvelles du livre en dehors des frontières françaises. Aujourd'hui, le Book Club prend la direction du Chili, ce très long pays coincé entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes. Notre correspondante Naïla Derouané nous appelle de Santiago. Bonjour Naïla.
Bonjour Marie et bonne année.
Oui, on va parler, merci beaucoup à vous aussi. Très bonne année, tous mes voeux. On parle avec vous aujourd'hui de poésie, de féminisme et de l'écrivaine Gabriela Mistral.
Oui, mais d'abord, si je vous dis Chili et littérature, vous pensez peut-être au célèbre poète Pablo Neruda, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1971. Mais saviez-vous qu'une autre personne au Chili l'avait également reçu, 26 ans avant lui ? Eh bien oui, évidemment, il s'agit de notre personnage du jour, Gabriela Mistral, écrivaine, enseignante et diplomate. Elle est la première femme latino-américaine à qui l'on a décerné ce prix, c'était en 1945. Gabriela Mistral est morte il y a 67 ans et c'est seulement depuis quelques années qu'elle s'est convertie en une icône, notamment pour le mouvement féministe chilien et la communauté LGBTQ+.
Alors justement, pour bien comprendre, Naïla, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait qualifier l'importance de cette figure de Gabriela Mistral au Chili ?
Eh bien, Gabriela Mistral, de son vrai nom Lucila Godoy Alcayaga, c'est une des grandes plumes de la poésie chilienne et on l'a dit, elle a reçu un Nobel. Elle est donc en quelque sorte un emblème national. On la retrouve partout. Ici, on enseigne ses poèmes à l'école. Son visage figure sur les billets de 5000 pesos. Des rues, des places, des établissements scolaires portent son nom. Mais ça fait une dizaine d'années environ que Gabriela Mistral réapparaît dans le champ littéraire et l'imaginaire collectif, mais sous une autre forme.
C'est-à-dire, c'est sous quelle forme qu'elle réapparaît ?
En fait, on redécouvre depuis peu la vraie Gabriela Mistral, engagée politiquement, une personne avec des vices, comme tout le monde, hein, mais aussi possiblement non-binaire, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se sent ni homme, ni femme, et peut-être même qu'elle était lesbienne. En tout cas, elle ne s'est jamais mariée et n'entre pas dans les codes hétéronormés. Eh bien, toutes ces facettes, elles ont été gommées au moment de la dictature de Pinochet dans les années 70-80, pour ne garder qu'une image très lisse de Gabriela Mistral. Ses poèmes ont été manipulés pour ne conserver que la partie plus naïve de tendresse, alors qu'en réalité, il s'agissait de critiques très aiguës de la société. Gabriela Mistral avait aussi une vision assez progressiste, notamment en ce qui concerne les droits des femmes. Finalement, la dictature lui a collé l'étiquette de la « bonne femme maternelle », je mets des guillemets, hein, c'est-à-dire la maîtresse d'école, la femme altruiste, dont la principale préoccupation était de s'occuper des enfants, mais cette image est loin de la réalité.
Alors justement, Naïla, à quel moment est apparu le vrai visage de Gabriela Mistral ?
Eh bien, il y a une dizaine d'années environ, lorsqu'on commençait à émerger des textes encore inconnus du public, des poèmes, des essais, des lettres qu'elle envoyait à des femmes, des centaines de pages de notes. Gabriela Mistral a beaucoup écrit tout au long de sa vie et sur plein de sujets. Son œuvre est extrêmement prolifique et les maisons d'édition ont alors commencé à éditer ou rééditer ses écrits. Et tout ça s'est télescopé avec le mouvement féministe qui, au même moment, a pris de l'ampleur au Chili, fin des années 2000 et tout au long de la décennie 2010 jusqu'à aujourd'hui. La nouvelle génération de lectrices et de chercheuses se réapproprie désormais une autre Gabriela Mistral, plus authentique et plus réelle, avec ses failles, ses doutes et ses désirs. Je vous propose d'écouter Yun García Ardiles. Elle a la trentaine, elle est écrivaine, journaliste et féministe.
Le mouvement féministe revalorise la figure de Mistral, mais il y a aussi un besoin de retrouver des symboles. Et l'un des symboles, c'est justement cette Gabriela Mistral moderne. Car cette femme n'est finalement pas celle qu'ils ont voulu nous faire croire. Il y a tout un monde qu'on commence tout juste à découvrir, et on va continuer d'en découvrir davantage.
Est-ce que c'est judicieux d'utiliser ce mot-là, de dire que Gabriela Mistral était féministe ?
Alors oui et non, oui, car les valeurs qu'elle défendait sont les mêmes revendiquées aujourd'hui par les féministes chiliennes, l'importance de l'éducation, l'égalité femmes-hommes ou encore la défense des marginaux et des peuples autochtones. Dans notre époque contemporaine, Gabriela Mistral est donc clairement féministe, mais elle a toujours refusé de se dénommer comme telle, car à l'époque, le combat féministe était porté par les femmes de l'élite sociale et Gabriela Mistral, elle est issue de la classe pauvre, du monde rural et ne s'identifiait pas au mouvement féministe d'alors. Elle doit sa trajectoire aux femmes qui l'ont entourée quand elle était petite et qui lui ont appris à lire.
C'est donc à la fois cette image populaire et singulière qui trouve le profond écho dont vous parlez, Naïla, aujourd'hui au Chili.
Oui, et particulièrement en 2019, au moment de la crise sociale où les femmes étaient d'ailleurs très mobilisées, Gabriela Mistral a été brandie comme un symbole anti-système prônant plus d'égalité et de justice. Elle a été taguée sur les murs de la capitale, arborant un look moderne avec un foulard vert autour du cou. C'est le symbole du droit à l'avortement ici en Amérique latine. On a même pu lire des inscriptions comme par exemple « Moins de Pablo Neruda ». Plus de Gabriela Mistral, une manière aussi de revendiquer l'héritage littéraire des écrivaines chiliennes beaucoup moins connues que celui de leurs homologues masculins.
Donc il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est évidemment la lire. Est-ce qu'on peut indiquer à nos auditeurs et à nos auditrices un moyen de la lire en français, Naïla ?
Absolument. Les éditions Une, notamment, ont fait paraître deux recueils de poèmes, Pressoir et Essart. Et les éditions Caractère ont publié une anthologie de poésie et prose, de désolation en tendresse. Il ne reste plus qu'à vous lire.
Exactement. Un très grand merci à vous. On peut réécouter votre chronique sur Lectures sans frontières, franceculture.fr. On n'a pas beaucoup parlé, Phoebe Adjimarcos-Clark, de l'ambiance musicale qui pouvait éventuellement régner dans Alien, mais ici, tous les jours, dans le Book Club, on se propose de chercher de la musique dans les livres. C'est notre auditrice qui s'appelle... Je vais tout de suite le trouver... Qui s'appelle Delphine. Qui nous a envoyé un extrait d'un texte. Qui s'appelle « Et si c'était une nuit ?» de Toby Nathan, paru en 2023 aux éditions Stock. C'est la première fois que je m'en mêle les pinceaux dans mes papiers, ça fait du bien quand même de temps en temps. Ce livre s'appelle « Et si c'était une nuit ?» Il est paru en 2023 aux éditions Stock, c'est un livre de Toby Nathan. On est le vendredi 10 mai 1968 dans ce livre. Le jeune Toby, maoïste et juif d'Égypte exilé, zigzague à contre-courant de la foule qui envahit le quartier latin de Paris, entre les CRS, les barricades et les étudiants révoltés. Étranger à lui-même et aux yeux des autres, il incarne la jeunesse exaspérée et cette nuit-là, la révolution et son chaos intérieur se mêle. Et si c'était une nuit, comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits, une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit, un chien hurle. Regardez bien Jean de d'enfer. Regardez-le sous son manteau de bronze vert. Le lion tremble. Moi aussi j'ai eu ma nuit du destin. Mais à la différence des musulmans qui la vivent tous les ans durant le ramadan, la mienne n'est survenue qu'une seule fois dans ma vie. Cette nuit-là, j'ai fait deux rencontres. Une personne bien réelle, que j'ai revue par la suite, et une autre, plus floue, dont j'aurais du mal à parler. Peut-être l'ai-je seulement rêvé celle-là. Ces rencontres ont été si puissantes, se sont révélées si décisives, qu'elles demeurent inscrites dans ma mémoire comme des balises. Posez-la pour éclairer mon chemin.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de d'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris.
Merci beaucoup, Phoebe Adjimarcos-Clark.
Merci beaucoup
d'être venue nous parler de votre livre Alien, dont je rappelle qu'il est paru aux éditions du Sous-Sol aujourd'hui. Même pas besoin de mes papiers, je sais que c'est Dalia qui était au son, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club. Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Oriane Delacroix, Marianne Chassor, Léa Weisgruss, Didier Pinault et Alexandre Alaï-Begovic. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr et pourquoi pas en podcast via l'appli Radio France. Bel après-midi sur Culture.